dernier enfant d'une fratrie de 4 garçons, assez mouvementé. Et comme tout petit dernier, j'étais à la fois choyé et martyrisé par mes aînés. Et je jouais à garder les vaches. Donc on garde des vaches. Et je gardais des vaches imaginaires dans un enclos imaginaire. Elles m'occupaient bien. D'ailleurs, ces vaches, je les avais appelées carnes de vache et putain de vache, puisque c'est les seuls noms que j'entendais employés par le voisin. Donc je croyais que j'avais deux vaches, une s'appelant carne de vache et l'autre putain de vache. Et donc je gardais ces vaches soigneusement dans un enclos. Quand mes frères sont venus aux catastrophes ouvrir le portail virtuel. Et de ce portail virtuel ouvert, se sont évadées mes deux vaches virtuelles et moi, j'ai fondu en larmes. Dans une détresse qui, au fond, vaut bien toutes celles qui correspondent à nos heures avec le réel. Voilà, un enfant, c'est très sérieux. Un enfant, c'est très sérieux, ça ne joue pas, au fond. Et donc, il est capable de pleurer de la disparition d'un objet que l'on dit imaginaire, au même titre qu'on peut pleurer un objet réel. Et quand, enfant, je pleurais devant l'évasion de mes carnes de vache et putain de vache, est-ce comparable à ces larmes qui étonnent Hamlet lorsqu'il voit l'acteur pleurer en récitant la mort d'Hécube? Puisque Hamlet, vous le savez, dit que les acteurs détiennent la vérité sur l'histoire. Et pourquoi détiennent-ils la vérité sur l'histoire? Sans doute parce que l'histoire est une grande comédie. Et alors Hamlet fait représenter une pièce par des acteurs. Et il demande à un des acteurs de montrer ce qu'il sait faire, et pour montrer ce qu'il sait faire, cet acteur récite la mort d'Hécube, et en récitant la mort d'Hécube, il se met à pleurer. Et Hamlet, devant ce spectacle, d'abord a honte de lui-même, car lui, son père a été assassiné, sa famille est en grande difficulté, et il ne trouve pas à s'émouvoir, il ne trouve pas à agir, il reste aussi impassible qu'avant. Comment se fait-il que l'imaginaire nous meuve plus que le réel? Nous pouvons mourir, pleurer pour la mort d'un personnage imaginaire, alors que le décès de notre voisin nous laisse de glace. Est-ce bien comparable? Les pleurs de l'enfant auquel on enlève un objet imaginaire et les pleurs d'un acteur qui est saisi par l'imaginaire. Apparemment, oui, puisque dans les deux cas, il semble qu'il y ait une identification de l'imaginaire et du réel. Et que dans les deux cas, il semble qu'il y ait une mobilisation forte du pouvoir d'émotion, plus forte en tout cas que ne nous le donne l'action habituelle. Donc il semblerait que le jeu ouvre notre pouvoir d'émotion, que l'action nous conduit au contraire à restreindre le plus possible. L'action nous invite à restreindre le plus possible l'éventail de nos émotions. Il n'y a pas intérêt à ce que je sois ému quand je conduis. Alors que le jeu nous invite à élargir le spectre de nos émotions jusqu'aux larmes, jusqu'au rire. Cependant, est-ce bien comparable? Car si je pleurais mes vaches, je les pleurais comme réelles. Si l'acteur accepte de pleurer pour un personnage qui n'existe pas, c'est précisément parce qu'il est irréel. Et il y a donc une intentionnalité fondamentalement différente entre l'attitude de l'enfant qui vise un réel, plus ou moins blessant, plus ou moins décevant, à travers l'objet que nous voyons comme imaginaire, et l'adulte qui vise un objet en tant qu'imaginaire, comme imaginaire, qui le veut imaginaire. Autrement dit, l'adulte joue, il s'évade, mais de quoi l'enfant s'évade-t-il? Il n'a pas quoi que ce soit dont il est à s'évader, il n'a pas quoi que ce soit à fuir, à oublier. Il est c'est à peine s'il découvre. Et donc l'attitude de l'enfant qui joue n'est pas du tout celle de quelqu'un qui cherche à oublier, c'est au contraire, sans doute, celle de quelqu'un qui découvre. Alors que l'attitude de l'adulte qui joue nous apparaît comme celle de celui qui cherche à oublier, à échapper aux soucis, aux tourments, et à se donner donc une parenthèse. Donc, on a pu dire que le jeu de l'enfant, c'est le travail, et que l'enfant, dans le jeu, vit quelque chose qui est sérieux. En tout cas, il ne fait pas la différence entre la distance où il fait mal, la différence entre la distance ludique et le sérieux donc, du travail. En ce sens, donc, il serait juste de dire que seul l'adulte à proprement parler joue si jouer est s'évader. Cependant, on ne peut pas en rester là, car il reste étonnant que les mêmes conduites soient affectées du même nom, celle de l'adulte et celle de l'enfant. Qu'y a-t-il donc en commun entre le jeu un peu pervers de l'adulte et le jeu naïf, mais aussi souvent pervers, car cruel, de l'enfant? En quoi donc cette assimilation des formes de jeu est-elle bénéfique? Dans un premier temps, j'analyserai la notion même de jeu, scolairement, qu'est-ce que c'est qu'un jeu. Dans un deuxième temps, j'évoquerai la fonction éducative, enfin, la fonction du jeu dans la genèse de la conscience. Et puis dans un dernier temps, je m'interrogerai sur la place de l'éducateur, sur la place de l'adulte par rapport au jeu de l'enfant et la manière dont l'adulte a à répondre, à interagir avec ce jeu de l'enfant. Qu'est-ce que le jeu? Alors le mot recouvre des réalités très différentes, puisqu'on utilise le mot pour le jeu de l'acteur, aussi bien que pour celui de la roulette, que pour celui du football, du jeu d'échecs, etc., y compris le jeu maniaque de celui qui s'amuse avec un stylo bille pendant une conférence. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces conduites? Roger Caillois, qui fut un sociologue assez important au XXe siècle, propose de distinguer quatre formes de jeu. Nous partirons de cela. Il propose de distinguer agone, mimesis, aléa et vertigo. Enfin, je modifie un peu son vocabulaire, que je trouve encore plus compliqué que le mien. Agone, c'est le combat, la lutte, c'est ce qui a donné l'agonie. Mimesis, que lui appelle mimicry, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup il introduit l'anglais, c'est l'imitation. Aléa, c'est le hasard, et vertigo, c'est le vertige que lui, il appelle ilinx du grec. Commençons par mimesis. Commençons par mimesis parce que, sans doute, tout jeu est un faire-semblant. Ça nous apparaît, en tout cas, comme un faire-semblant. Une manière de redoubler une conduite en la déconnectant de sa finalité pratique. Une caractéristique fondamentale du jeu, c'est que, sur laquelle nous reviendrons, c'est qu'il n'est pas lié au résultat. Sauf pour le mauvais joueur. Et justement, il est mauvais joueur par cette raison. Et quand j'imite les gestes de la colère, quand j'imite les gestes de la cuisine ou du combat, cette imitation a pour condition que soit coupé le rapport avec le résultat. et que ce résultat donc soit au fond indifférent. C'est pourquoi on peut dire à travers cet exemple de la mimésis, de l'imitation, des jeux d'imitation, que le jeu est caractérisé par sa gratuité. Le trait fondamental du jeu, c'est sa gratuité, c'est-à-dire le fait que il a en lui-même sa propre fin. Il n'a pas sa fin en dehors de lui, dans un résultat, dans une solution qui serait apportée à un problème quelconque. Et donc c'est dans ce sens que dans le jeu, d'ailleurs, nous reviendrons aussi sur cette caractéristique, construction et destruction sont équivalents. Même, sans doute, avec une préférence pour la destruction. Puisque l'enfant qui monte des cubes les uns sur les autres éprouve bien sûr une certaine joie à les empiler et puis jubile au moment où il s'écroule. Tel n'est pas le cas du maçon. Et donc l'enfant n'apprend pas à être un maçon. Parce que s'il apprenait à être un maçon en se réjouissant de mettre le mur en équilibre instable jusqu'au point angoissant où il va chanceler et s'effondrer pour notre plus grande jubilation, je ne l'emploierais pas sur un chantier. Donc, la mimésis consiste à redoubler une activité en suspendant son résultat pratique. Donc, quand je mime un combat, ben, je l'effleurai son moucheté. Et cette mimésis, donc, c'est ce qui nous apparaît être le cas donc, de l'acteur aussi bien que de l'enfant qui joue à la binette. Cette mimésis, Roger Caillois dit qu'elle consiste à être un autre. Je n'en suis pas sûr. Certainement, l'acteur joue à être un autre. Et certainement, dans les vocations d'acteur, dans le goût pour être acteur, il y a le goût de revêtir d'autres identités, sans pour autant tromper d'ailleurs. C'est là que l'imitation, évidemment, se distingue du mensonge, car l'imitation se donne comme telle, l'imitation n'a jamais trompé personne. Elle n'est pas faite pour tromper. Tout le monde sait que c'est un acteur. Il faudrait être absolument demeuré pour aller se porter à son secours quand il s'effondre sur la scène. Et donc, le but de l'acteur n'est pas de tromper, il est au contraire de montrer l'illusion comme telle. C'est d'ailleurs pourquoi il y a plus de force dans les jeux des marionnettes que dans celui des acteurs. Parce que dans le jeu des marionnettes, au moins, l'illusion est montrée comme telle. Et donc, on ne cherche pas à tromper. Je ne suis pas sûr que l'enfant qui joue à la binette cherche à être un autre. Je ne suis pas sûr que la petite fille qui imite sa maman cherche à être un autre, une autre. Je ne suis pas sûr que le garçon qui joue à la guerre cherche à être un autre. Parce que, comme je le disais au début, je ne vois pas de quoi il voudrait s'évader. Et je ne vois pas quelle identité il voudrait fuir ou conquérir par l'intermédiaire donc de cette mimésis. En revanche, ce qu'il y a certainement de commun dans toutes ces attitudes d'imitation, qui sont quand même des attitudes très profondes dans l'homme, c'est leur lien avec l'angoisse au fond. D'ailleurs, c'est ce que dit Camus à la fin du mythe de Sisyphe, lorsqu'il dit que les hommes n'ont pas trouvé d'autre manière de répondre au problème du mal que de l'imiter, en quelque sorte, que de le reproduire, de se le réapproprier. Alors que l'imitation soit une appropriation de ce qui nous angoisse, ça sans doute. Et une manière de maîtriser ce qui nous angoisse en le faisant sien, en déconnectant les conséquences pratiques, c'est sans doute vrai. Mais je crois qu'il y a, et c'est la réflexion que je conduirai ce soir, une grande différence entre souhaiter être autre à travers cette mimésis et souhaiter devenir soi-même à travers cette mimésis. La mimésis, d'ailleurs, les jeux d'imitation, la dinette, etc., les jeux de guerre, sont des jeux qui rentrent dans la catégorie de ce que les Anglais distinguent entre play et game. Nous n'avons pas cette distinction, ça nous embarrasse. Le play est normalement réservé aux jeux justement sans compétition, aux jeux de mimesis, de libre imitation. D'ailleurs, on a souvent fait observer que dans les jeux des petites filles, quand elles, qui elles aiment les jeux de la forme play, elles quittent le jeu dès qu'il y a une compétition. Alors qu'au contraire, pour les garçons, le jeu commence quand il y a une compétition. Et ce qui est davantage le cas, donc, du game, qui correspond à la deuxième forme de jeu que distingue Roger Caillois, qui est donc celle qu'il appelle agone, c'est-à-dire le défi, le combat. Beaucoup de jeux, en effet, mine quoi ? Un combat. Et à travers ce combat, les hommes se lancent un défi l'un à l'autre. Ça, c'est la situation fondamentale décrite par Hegel, à travers la dialectique du maître et de l'esclave, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est que la première relation d'homme à homme serait celle du défi, dans lequel chacun est défié d'être un homme. Et il est défié d'être un homme par la capacité qu'il a à risquer sa vie ou à risquer de perdre. Toutefois, dans le jeu de lutte à Gaulle, les jeux de compétition, donc que ce soit les échecs, le football, la boxe, tout ce que vous voulez, dans les jeux de compétition, nous sommes évidemment en présence d'un jeu, là aussi, parce que nous sommes dans une rupture avec le réel. Cette rupture avec le réel se remarque au moins à trois choses. La première, c'est que tous ces jeux reposent sur une stricte égalité de départ. Je peux vous dire, et vous le savez, que c'est jamais comme ça dans la vie. Et donc, il n'est jamais vrai dans la vie que les deux équipes soient composées de 11 joueurs et que ces 11 joueurs aient affaire aux mêmes règles. Et c'est encore moins vrai que les deux camps soient composés de 16 pièces et que ces 16 pièces répondent aux mêmes règles. Non. Dans les compétitions de la vie, entre deux armées, entre deux entreprises, entre deux banques, on n'a jamais affaire à une situation d'égalité. On a affaire à une guerre. Quelle est la différence entre la guerre, qui vise la mort, et la compétition, qui vise la victoire? Et à travers donc cette égalité, ce qui apparaît bien, c'est que le jeu se donne comme une mise entre parenthèses. D'ailleurs, cette mise entre parenthèses est soulignée par un deuxième trait du jeu, y compris du jeu de compétition, qui est qu'il existe dans un temps limité. Il a un commencement, il a une fin. On siffle le début du match, on siffle la fin du match. Le mauvais joueur, c'est celui qui n'arrive pas à s'arrêter de jouer et qui va continuer de se bagarrer dans les vestiaires. Le propre du jeu, c'est d'être une maîtrise du temps, non seulement à travers l'imitation, non seulement à travers la déconnexion par rapport à la finalité pratique, mais par un décompte du temps, qui a quelque chose donc de fictif. Et enfin, la troisième caractéristique qui montre que ces jeux de compétition restent des jeux et sont caractérisés donc par leur mise à part du réel, c'est aussi précisément la présence de règles. Le jeu de loi nous fait savoir comment on avance, nous fait respecter les règles. Dans la vie, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas une comparaison plus sotte que celle de la loi et de la règle. les lois ne sont pas du tout les règles d'un jeu. Sinon, nous serions comme des pièces de jeu de loi qui avancent en fonction du lancer de dés. Tiens, lancer de dés pour le jeu de loi. Tiens, dans le jeu d'échecs, il y a égalité, 16 pièces de chaque côté, mais il y a quand même un coup de peau quand on joue le premier. Le football, 11 joueurs, un temps égal, des surfaces égales, une égalité fictive constituée, construite. Mais il y a la pièce que l'on jette en l'air au début, pour choisir son camp, et puis il y a la glorieuse incertitude du sport. Il ne faut pas l'oublier, la glorieuse incertitude du sport, qui fait que non seulement on a affaire à une mimésis, c'est-à-dire qu'on mime un combat, non seulement on a affaire à un agone, c'est-à-dire que l'on a une compétition avec un vainqueur et un perdant, mais il y a une dimension aléatoire. Ça, c'est une caractéristique aussi que l'on peut retrouver dans tous les jeux. Cette dimension aléatoire, elle contredit justement l'action et le jeu. Parce que la règle de l'action, c'est que je diminue le plus possible la part du hasard. La règle de l'action, c'est que je regarde le dessous des cartes. Si je ne regarde pas le dessous des cartes, je me mets en danger. Et donc, quand j'entreprends une guerre, je cherche à savoir le dessous des cartes. J'envoie des espions. Et il n'y a pas de tricherie à la guerre. Il y a des tricheries que dans le jeu. Parce qu'il n'y a pas de règles dans la guerre, il y a des règles dans le jeu. Et donc, dans l'action, cherche à rétrécir le plus possible la part de l'aléa, la part du hasard. Au contraire, le jeu ouvre indéfiniment cette part de hasard, ce qui est évidemment encore plus évident dans les jeux de hasard que peuvent être les jeux autour de l'argent. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que l'argent intervient dans le jeu quand le hasard y intervient. Et plus le hasard intervient, plus l'argent intervient. Comme si il fallait qu'il y ait une mise en balance du caractère objectif et nécessaire de l'argent et du caractère aléatoire du jeu. Cet aléa du jeu, il mime aussi quelque chose. Et il mime, là on peut le dire, notre liberté, qui se donne sous la forme de la possibilité. Et donc le jeu ouvre les possibles que l'action devrait le plus possible refermer, et par là même nous déploie une liberté purement mimée. Alors c'est là aussi qu'il y a sans doute une grande différence entre le jeu de l'enfant et celui de l'adulte, parce que il est possible de dire que l'enfant apprend sa liberté en éprouvant les hasards. Il est possible de dire que l'adulte mime et fuit sa liberté en se livrant au hasard. Je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. L'amour me fait ici chercher une inhumaine, dit Forest dans Andromaque. Ceci est fort bien décrit. Parce que vous me demandez pourquoi j'ai apporté tous ces livres. Ce n'est pas une pile de cubes. Ceci est fort bien décrit par Malraux dans une très belle page de La condition humaine. De toute façon, une belle page de La condition humaine, c'est un pléonasme. Donc vous vous rappelez sans doute l'épisode dans lequel Clapic, ce personnage d'esthète délirant, se livre à un jeu de la roulette, alors même que la vie de son ami en dépend, car il devrait aller prévenir son ami qu'il va être arrêté, et au lieu d'aller le prévenir, il joue à la roulette et perd son temps à la jouer à la roulette. Il joue donc à la fois le destin de son ami et le sien. Et donc Malraux décrit longuement cette scène de jeu tout à fait extraordinaire, dont je lis quelques passages. Il misa $60 sur paire, de nouveau. Cette boule, dont le mouvement allait faiblir, était un destin, et d'abord son destin. Il ne luttait pas contre une créature, mais contre une espèce de dieu, et ce dieu, en même temps, était lui-même. La boule repartit. Il retrouva aussitôt le bouleversement passif, que c'est bien dit. Le bouleversement passif qu'il cherchait. De nouveau, il lui sembla saisir sa vie, la suspendre à cette boule dérisoire. Grâce à elle, il assouvissait ensemble, et pour la première fois, les deux clapiques qui étaient en lui, celui qui voulait vivre et celui qui voulait être détruit. Simultanéité des possibles. Qu'avait à voir avec l'argent cette boule qui hésitait au bord des trous comme un museau et par quoi il étreignait son propre destin? Le seul moyen qu'il eût jamais trouvé de se posséder lui-même. Gagner, non plus pour s'enfuir, mais pour rester, pour risquer davantage, pour que l'enjeu de sa liberté conquise rendît le geste plus absurde encore. Appuyé sur l'avant-bras, ne regardant même plus la boule qui continuait son chemin de plus en plus lent, frémissant des muscles du mollet et des épaules, il découvrait le sens même du jeu, la frénésie de perdre. Il découvrait que le jeu est un suicide sans mort. Ce qui donne bien l'idée de cette manipulation du possible et donc de cette simultanéité dans le possible de la vie et de la mort. C'est pourquoi aussi, et c'est la quatrième caractéristique du jeu, le jeu non seulement est lutte, non seulement est mime, non seulement est aléa, mais il est vertige. D'ailleurs, les premiers jeux, pour les enfants, sont des jeux de vertige. Tourner sur place. Résister à l'absence de respiration jusqu'à la limite. Sauter. Après, ça sera sauter en élastique, monter sur un grand 8, etc. Qui tous ont affaire à cette fascination du vertige. Et cette fascination du vertige, là, les philosophes l'ont longuement décrite, entre autres Kierkegaard, dans laquelle Kierkegaard montre bien que, justement, le vertige peut être compris comme ce rapport au possible, à travers lequel la liberté se pressent, et nous savons que le vertige, chacun d'entre nous devine bien que le vertige a quelque chose à voir avec l'angoisse. Et que nous nous approprions cette angoisse à travers le mime que nous en faisons dans les jeux de vertige. Qui, donc, sont aussi, à leur manière, comme le dit Malraux de la roulette, une manière de suicide sans mort. Ainsi, à travers ces quatre formes de jeu que décrit Roger Caillois, Agode, Némésis, Aléa, Vertigo, qu'y a-t-il de commun? Alors là, c'est ce que Roger Caillois ne dit pas trop, mais que nous allons nous efforcer de dégager ce soir, parce qu'il ne suffit pas en philosophie d'énumérer des différentes formes de jeu. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un jeu, qu'est-ce qu'on dit de commun quand on dit jeu. Eh bien, il est clair que le jeu est la fascination exercée par les possibles, l'ouverture exercée par les possibles, une manière aussi de s'approprier ou de mettre à distance la nécessité. Ce qui est bien décrit dans l'image du suicide sans mort. la mort est la nécessité de notre vie. Et tous nos combats, tous nos jeux d'acteurs, tous nos jeux de joueurs de roulette ont à voir avec ce défi de la mort et cette, ce rapport donc au nécessaire qui est maîtrisé magiquement par la conduite du jeu, du moins dans le jeu de l'adulte. Tout ceci a été définitivement et brillamment décrit par Pascal dans les analyses que tout le monde connaît du divertissement. Puisque vous savez que Pascal appelle divertissement toute activité humaine. Il range toute action, y compris la guerre, y compris l'amour, y compris la littérature, y compris la philosophie, dans la catégorie du divertissement. Que veut dire divertissement ? Il faut comprendre divertissement au sens de opération de diversion. Un divertissement, c'est une opération de divertissement, de diversion. Une opération de diversion, c'est quoi ? Ça consiste à donner un faux but à l'action. Quand une armée fait une opération de diversion, elle envoie l'adversaire vers un leurre. Et la caractéristique du jeu que nous avons dégagé d'abord, c'est celle de la gratuité. Cette caractéristique de la gratuité nous a permis de dégager celle du rapport au possible. Et tout ceci, au fond, culmine dans cet objet qu'est le leur. Nous sommes semblables, dit Pascal, à ces enfants qui s'effraient du visage qu'ils ont eux-mêmes barbouillé. Et Pascal évoque par exemple ce chasseur qui va partir toute la journée et courir derrière un lièvre. Et il dit, ce chasseur ne voudrait pas qu'on lui donnât le lièvre derrière lequel il va courir. Donc ce que le chasseur veut, ce n'est pas le lièvre. Alors on pourrait dire, bon, ben, puisque le chasseur, ce qu'il veut, ce n'est pas le lièvre, il n'a qu'à aller faire une bonne marche dans la campagne, le fusil à la main, et laisser les lièvres tranquilles. Mais le chasseur n'irait pas non plus faire une bonne marche hygiénique pour le simple plaisir s'il n'y avait pas de lièvre. Il faut qu'il y ait un lièvre et qu'il n'y en ait pas. Et ce leurre fait que le jeu, et là, je crois qu'on touche à l'essentiel, ce jeu est toujours une oscillation, une alternance angoissante ou réjouissante et réjouissante. De toute façon, la jubilation de l'enfant qui éclate de rire devant la pile de cul, elle confine à l'angoisse. C'est donc une alternance de l'absence et de la présence. Et cette capacité de faire alterner la présence et l'absence, c'est bien la capacité même de la conscience. D'ailleurs, on le voit, et c'est ce que nous allons développer dans la deuxième partie, à travers les jeux que font les petits-enfants, qui sont toujours coucou. Tous les jeux sont des jeux d'absence et de présence. Partie, à plus le coucou, voilà. Et il s'agit de cacher un objet et de trouver, se cacher soi-même et de trouver, de se cacher, et de se cacher et d'attendre qu'on cherche, si personne ne vient chercher également. Quelle est donc la fonction du jeu ? Alors, c'est ici que les analyses que l'on doit à la psychologie, mais avant la psychologie que l'on doit à Hegel, sont très éclairantes. On va s'arrêter un moment à une idée tellement évidente qu'elle en est difficile à comprendre. C'est que nous ne naissons pas dans un monde d'objets. La plupart des opinions, la plupart des philosophies mettent un petit bonhomme dans un décor. Et s'imagine que ce petit bonhomme découvre des objets mais nous ne naissons pas dans des objets, à travers des objets, nous naissons dans des bras. Nous naissons en relation avec les autres. Nous naissons portés, nourris, accueillis, bénéficiaires d'un premier salut, car nous portons tous la mémoire d'un premier salut si nous avons été sauvés le jour de notre naissance. Ouf. Et donc, le premier monde humain, ce n'est pas moi et les choses, c'est les autres et moi. Et la genèse de la conscience, ce n'est pas la découverte progressive des choses par une conscience qui avancerait à tâtons, comme l'imaginent les empiristes, mais c'est la genèse du moi dans l'histoire de son arrachement à l'imaginaire. La grande intuition que l'on voit bien chez Freud, mais que l'on voit déjà chez Hegel, c'est qu'au fond, nous ne commençons pas par le réel, mais nous commençons par l'imaginaire. Et que tout l'apprentissage d'une vie, c'est précisément de faire tomber autant que possible la relation à l'imaginaire. Et qu'à mesure que cette relation à l'imaginaire tombe, le sujet conquiert son identité. Donc l'hypothèse, bien sûr qu'il restera à jamais une hypothèse, pour des raisons que vous voyez bien, l'hypothèse c'est qu'un nourrisson n'a pas une conscience de soi, explicite, ou dans laquelle il serait capable de distinguer le moi et le non-moi. L'hypothèse la plus probable c'est que le nourrisson n'est pas dans la distinction du moi et du non-moi. Et que cette distinction du moi et du non-moi, elle a une genèse, elle a une histoire. Et c'est toute l'histoire de l'éducation. Que d'apprendre cette mise à distance qui permet donc de poser l'extériorité d'autrui, de poser l'extériorité des choses. Tout se passe donc comme si, avant la conscience, il y avait une sorte de d'immédiateté, c'est-à-dire d'absence de distance, d'adhésion pleine à soi et à son environnement, et qu'il faut passer donc de l'immédiateté à la médiation. Il faut quitter l'immédiateté vitale pour passer à la médiation de la culture, car au fond, qu'est-ce que c'est que la culture, sinon l'ensemble des médiations que nous avons à faire. Le langage, les vêtements, les objets, les jeux, etc., et les règles. Alors, c'est ce que Winnicott a décrit. Winnicott, ça s'écrit avec deux N et deux T, bien sûr que c'est. Son prénom, il y a toujours des gens indiscrets qui demandent des prénoms parce que c'est déjà libre. Je ne sais pas, DW. Donald. C'est ce que Winnicott décrit donc à travers ce qu'il appelle l'objet transitionnel. Cet objet transitionnel, c'est celui que l'on peut reconnaître dans les doudous des enfants et ces objets fétiches qu'ils transportent sans cesse, dont ils ne veulent pas se séparer, et dont cependant, un jour, ils se sépareront au grand bonheur de leurs parents, qui reconnaîtront ici, enfin, leur seconde naissance. D'ailleurs, cette analyse de l'objet transitionnel faite par Winnicott, elle est contemporaine de la bande dessinée Les Peanuts. Et dans Les Peanuts, il y a le personnage de Linus avec sa couverture, qui d'ailleurs utilise sa couverture pour remplacer son pouce, car un jour, Linus a découvert qu'un pouce pouvait perdre son goût. Et quand Linus a découvert qu'un pouce pouvait perdre son goût, il est sorti de la première enfance, c'est-à-dire qu'il est sorti du stade où il n'y a pas de différence entre le moi et le non-moi, du stade où il y a une pleine adhérence à soi et aux choses, de telle sorte que la conscience de soi est faible. Cet objet transitionnel, cette couverture, mettons, de Linus, de Nounours, que sais-je, Winnicott dit bien que c'est la première propriété. C'est intéressant. C'est que la relation humaine au réel, c'est la propriété. L'homme n'est pas caractérisé par l'être, mais par l'avoir. Être, c'est la portée de n'importe quel chien. Avoir, c'est la conduite humaine. Parce que avoir, c'est ce qui permet la position de l'objet dans son extériorité. Et la cession de cet objet. Car l'objet que j'ai, c'est l'objet que je peux céder aussi. C'est l'objet que je peux perdre. Tant que l'enfant ne peut pas perdre cet objet, tant qu'il ne peut pas le céder, il n'est pas encore tout à fait dans la voie. Pour qu'il soit pleinement dans la voie, il faut que justement, il puisse le mettre à distance et se séparer de lui. Et à ce moment-là, il rentre dans la pleine relation de conscience avec la réalité. Donc, Winnicott dit bien que le jeu ne relève ni le jeu de l'enfant, ne relève ni de la réalité psychique intérieure, ni de la réalité extérieure. C'est pour ça que cet objet, il l'appelle objet transitionnel. Le premier objet, non-moi, qu'il puisse concevoir en dehors de soi. Ceci est résumé dans un texte que d'ailleurs figure sur la liste des textes qui vous a été donné, je crois. Donc le jeu ne relève ni de la réalité psychique intérieure, ni de la réalité extérieure, dit Winnicott, et il résume les qualités particulières de la relation à cet objet transitionnel. Premièrement, le petit enfant s'arroge des droits sur l'objet, et nous l'autorisons cette prise de position. Cette prise de possession. Là, Winnicott, à mon avis, n'insiste pas assez et n'a pas vu toute la portée de son affirmation. Parce que dire que nous l'autorisons cette première possession, c'est dire que la première possession, elle est comprise comme une autorisation. Donc elle est comprise dans une relation. Car nous n'avons pas affaire à des choses, nous avons affaire à des hommes. L'objet, il est entre moi et l'autre. Et d'ailleurs, l'objet est tellement entre moi et l'autre que dans beaucoup de jeux d'enfants, ils se disputent les objets, ils se les arrachent. Et le doudou est le premier objet concédé. Et justement, concédé par l'autre. D'où d'ailleurs l'importance, j'y reviendrai sans doute si j'ai le temps, dans les jeux, de tous ces jeux qui consistent à dire donne, prends, dis merci. Parce que dans le jeu donne, prends, dis merci, il apprend à la fois l'altérité de l'objet et l'altérité d'autrui. Et cette altérité de l'objet est une transition avec autrui, parce que précisément, il est objet d'échange. Et donc voilà pourquoi Winnicott dit, moi j'aurais été à sa place, mais par bonheur pour lui, je n'y suis pas, j'aurais davantage insisté, mais donc nous autorisons cette prise de position, cependant une certaine annulation de l'omnipotence est d'emblée présente. Annulation de l'omnipotence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suppose que le nourrisson se pense tout puissant, comme le pervers. Et le nourrisson se pense tout puissant. On ne sait pas bien comment il se pense, mais le nourrisson, donc, peut très bien, s'il était vrai que le nourrisson ne distingue pas le moi et le non-moi, d'ailleurs de même que le pervers, il serait perpétuellement dans la position de la toute-puissance. et le fait que cet objet lui soit concédé, à la fois lui donne une puissance sur cet objet, mais l'oblige à renoncer à la toute-puissance. Parce que ça l'oblige à accepter d'inscrire cet objet dans une relation. Deuxièmement, l'objet est affectueusement choyé, mais aussi aimé avec excitation et mutilé. Donc c'est l'équivalence de la destruction et l'affection, qui montre justement que pourquoi cette destruction ? Eh bien, pour éprouver l'altérité de l'objet. Et la différence entre l'altérité de l'objet et l'altérité d'autrui. Autrui est indestructible. Sauf pour le pervers, justement. Mais la différence, c'est que je peux faire tomber le tas de cubes, je peux déchirer le nounours, je peux déchirer une poupée, je ne peux pas déchirer ma voisine. Et c'est là que s'arrête radicalement la barrière de la toute-puissance magique. Ce qui fait que l'objet est transitionnel dans la mesure où sa destruction est autorisée. L'objet ne doit jamais changer, à moins que ce soit l'enfant lui-même qui le change. Il doit survivre à l'amour instinctuel, à la haine, et si tel est le cas, à l'agressivité pure, ce qui est la conscience magique. Cependant, il faut que pour l'enfant, l'objet communique une certaine chaleur, soit capable de mouvement, une certaine consistance, et fasse quelque chose qui témoigne d'une vitalité. De notre point de vue, à nous, adultes, l'objet vient du dehors, il n'en va pas ainsi pour le bébé. Pour lui, l'objet ne vient pas non plus de dedans, comme une hallucination. Notre première relation au monde serait hallucinatoire, et donc un objet qui vient de dedans, un objet que nous projetons, que nous fantasmons, et cet objet qui est objet transitionnel n'est pas tout à fait non moi, n'est pas tout à fait moi, il est donc exactement à mi-distance de l'intérieur et de l'extérieur. Et voilà pourquoi, septièmement, l'objet est voué à un désinvestissement progressif, et les années passant, il n'est pas tant oublié que relégué dans les limbes. Là, il y a une précision qui est importante. Je veux dire par là que, dans un développement normal, l'objet ne va pas à l'intérieur et que le sentiment qu'il suscite ne sera pas nécessairement soumis au refoulement. Il n'est pas oublié. On se souvient de son nounours. On n'a pas non plus à en faire le deuil. On n'est pas mélancolique. On ne dit pas, ah, si je pouvais retrouver mon nounours, oh, c'est mauvais signe. S'il perd sa signification, c'est que les phénomènes transitionnels deviennent diffus et se répandent dans la zone intermédiaire qui se situe entre la réalité psychique interne et le monde externe tel qu'il est perçu par deux personnes en commun. Le monde, c'est ce qui est entre nous. Et que nous pouvons nous donner mutuellement dans la mesure où tout en le donnant, nous apprenons à nous en séparer. Cette analyse de la prise de conscience de soi par la mise à distance de l'objet, donc elle a été développée par la psychanalyse, elle était présente bien antérieurement chez Hegel. Puisque c'est Hegel qui a dessiné avec beaucoup de profondeur cette jeunesse de l'âme qui devient conscience. Comment l'âme vitale, comment la première vitalité immédiate, passe-t-elle à la médiation, comment devient-elle conscience. Hegel, par exemple, évoque le jeu, tiens, de l'enfant qui jette un caillou dans l'eau. Et Hegel décrit ce jeu de l'enfant qui jette un caillou dans l'eau comme la capacité que cet enfant éprouve d'imposer sa marque au monde et à prendre conscience de soi par le fait de mettre le monde à distance. Il n'y a de conscience de soi que par cette mise à distance du monde, et la mise à distance du monde passe par une conduite qui imprime sur ce monde donc une marque. Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous cette page lumineuse qui est donc dans l'esthétique. J'aurais mieux fait de chercher la référence. Les choses de la nature n'existent que d'une seule façon. Elles sont ce qu'elles sont. C'est pour ça d'ailleurs que les animaux ne peuvent pas, que les chiens ne peuvent pas jouer au poker, puisqu'on sait tout de suite quand ils ont un bon jeu. Les choses de la nature sont ce qu'elles sont. Alors que l'homme existe doublement. Je me connais. Avoir conscience de soi, c'est se dédoubler. Les choses de la nature n'existent que d'une seule façon, tandis que l'homme, parce qu'il est esprit, a une double existence. Il existe d'une part au même titre que les choses de la nature, mais d'autre part, il existe aussi pour soi. Il se contemple, se représente, se pense, et n'est esprit que par cette activité qui constitue son être pour lui-même. Cette conscience de soi, comment l'homme l'acquiert-il ? Eh bien, il l'acquiert de deux manières. Premièrement, théoriquement, en se connaissant lui-même, etc. Et deuxièmement, l'homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu'il est poussé à se trouver lui-même, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné à l'extérieur. Il y parvient en changeant les choses extérieures qu'il marque du sceau de son intériorité et dans lesquelles il ne retrouve que ses propres déterminations. Ce besoin de modifier les choses extérieures est déjà inscrit dans les premiers penchants de l'enfant. Le petit garçon qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans l'eau admire en fait une œuvre où il bénéficie du spectacle de sa propre activité. Cette capacité de mettre à distance, d'éprouver la séparation des choses, d'éprouver la séparation du moi et du non-moi, de l'intérieur et de l'extérieur, donc c'est ce qui nous permet de comprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout jeu porte absence et présence. C'est ce que dit Pascal. Le signe porte absence et présence. Le lièvre est un signe, il porte absence et présence. Il est voulu et pas voulu. Tout jeu est jeu d'absence et de présence, de case noire et de case blanche, de vie et de mort. Et c'est par là que naît aussi le symbole. C'est ce que Lacan décrit à travers le célèbre jeu décrit par Freud. Lorsque Freud décrit le jeu de la petite fille qui jette une bobine, attachez-vous la fille, et jetant la bobine, la petite fille crie forte, la rapportant, elle crie da, c'est-à-dire partie. Voilà, parti, voilà. Tous les jeux, c'est parti, voilà. Et donc, la bobine au bout du fil, la petite fille la lance et la ramène à soi. Elle joue donc de l'absence et de la présence, de la séparation et des retrouvailles. À travers cette alternance, Freud dit qu'elle maîtrise quelque chose de son angoisse, sans doute, mais ce qui intéresse Lacan, c'est que cette alternance est au fond celle du symbole même. Car les mots portent absence et présence. Je parle du Mont Blanc. Et quand je dis Mont Blanc, le Mont Blanc ne rentre pas dans la pièce. C'est bien ce qui nous permet d'en parler. Et donc, la réalité fondamentale langage, c'est justement donc cette capacité donc de porter simultanément absence et présence. On lit rapidement quelques lignes de Lacan parmi les moins obscures. Aussi bien l'enfant commence-t-il à s'engager dans le système du discours en reproduisant plus ou moins approximativement dans son forte et dans son da les vocables qu'il en reçoit. Forte, da, parti, voilà. C'est bien déjà dans sa solitude que le désir du petit homme est devenu le désir d'un autre. Je trouve cette ligne absolument géniale. C'est bien dans sa solitude que le désir du petit homme est devenu le désir d'un autre, jouant de son absence et de sa présence, d'un alter ego qui le domine et dont l'objet du désir est désormais sa propre tête. Ainsi, le symbole se manifeste d'abord, commente Lacan, comme le meurtre de la chose, et cette mort constitue dans le sujet l'éternisation de son désir. voilà le mot-clé. En apprenant ce jeu d'absence et de présence, l'enfant apprend son désir. Comme rapport au possible, comme rapport au l'autre, à l'autre, et comme possibilité de la séparation, car le désir comporte essentiellement la possibilité de la séparation, y compris la possibilité du deuil.
Pour moi, pour les écrits, le symbole constitue le meurtre de la chose.
La 319. Bonne montagne. Le symbole se manifeste d'abord comme meurtre de la chose, et cette mort constitue dans le sujet l'éternisation de son désir. Et donc la seule vie qui perdure, elle devient celle du désir lui-même, qui passe donc par ce jeu, il faut bien dire, d'absence et de présence. Troisième et dernier point, quelle place pourrait-on donner, alors là je marche sur des œufs, parce qu'il n'y a pas de science dans ce domaine. Quelle place pourrait-on donner au jeu dans la jeunesse de l'éducation, au fond, et y a-t-il quelque chose qui puisse inviter, par exemple, l'adulte à exploiter les possibilités de ce jeu, à en tenir compte, à s'en servir comme d'un chemin pour l'émancipation, la croissance de l'enfant. Il est clair que Winnicott le dit et d'autres, et Alain et Hegel le diront dans les textes que nous rencontrerons, il est clair que précisément le rôle de l'adulte n'est pas d'entrer dans le jeu. Au fond, entrer dans le jeu d'un enfant, ça serait exactement comme de le rendre fou en quelque sorte, de l'enfermer dans cet imaginaire. Et il est classique, d'ailleurs depuis Freud aussi, de répéter que la tâche des éducateurs est de désillusionner. Et Freud dit même que la déception est la seule mesure éducative. Mais on voit bien pourquoi, parce que c'est la seule mesure qui permet au désir de se reconnaître comme désir, à travers cette expérience donc qui peut être celle d'une frustration. Donc l'enfant ne demande pas que l'on tienne au réel ses fantasmes. Et c'est la raison pour laquelle il est dans ce jeu où il apprend la séparation des choses, il peut être bon de lui signifier, et c'est sans doute ce qu'il attend aussi, que ces choses sont reçues des autres et à travers une certaine règle. Ça se voit bien dans les enfants de 6 mois. Quand il se livre à ce jeu pénible qui consiste à jeter les objets. C'est quand même extraordinaire. J'ai une petite fille qui j'ai la grâce d'avoir une petite fille qui a cet âge. C'est extraordinaire. Donc elle balance tout avec une indifférence apparente. Et qu'est-ce qu'elle apprend en balançant les objets? Elle apprend précisément la différence du moi et du non-moi. Et qu'attend-elle? C'est que l'objet lui soit rendu. En quelque sorte, on pourrait dire en philosophe, il est lâché comme objet et rendu comme signe. Et il est rendu comme signe en étant accompagné d'une convention. Prend, donne, dit merci, etc. Et c'est vraiment l'entrée dans le monde humain par l'apprentissage alterné, donc la distinction du moi et du non-moi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mal à dire de toutes les pseudo-méthodes pédagogiques qui voudraient faire apprendre par le jeu. D'ailleurs, si le jeu nous apprenait quelque chose, les cruciverbistes seraient les hommes les plus cultivés. Or, c'est très frappant. Les cruciverbistes ne sont pas plus cultivés que les autres. Je pense qu'ils le sont moins. Mais en tout cas, jamais les mots pratiques n'ont rendu quelqu'un cultivé. Et donc il n'est jamais vrai que l'on puisse puisse apprendre en jouant. Et pourquoi? Parce que précisément, apprendre, c'est sortir du monde de l'enfance. Et donc, sortir du monde du jeu. Et au fond, un enfant, si l'on rentre dans son jeu, il y a de fortes chances qu'on le déçoive, car, alors maintenant je reviens à ce que je disais au départ, voilà la grande différence entre le jeu de l'enfant et le jeu de l'adulte. C'est que l'enfant, il joue pour devenir lui-même, l'adulte joue pour devenir un autre. Et si, bien que l'adulte, ça le fait marrer de jouer, il se prend drôle, mais au fond, il déçoit l'enfant qui, lui, est en train d'essayer de sortir de l'enfance. Et alors, vous croyez qu'il est content? Lui, il est en train d'essayer de sortir de l'enfance et il voit le vieux qui veut y retourner. Il voit le vieux qui voudrait retourner justement de cette région dont il voudrait sortir. Car au fond, qu'est-ce qu'un enfant sinon le rêve d'être une grande personne? Et si je déçois en lui ce rêve d'être une grande personne, bien précisément, je le décourage complètement de grandir. C'est ce que dit avec force Hegel, encore lui, au paragraphe 175 de la philosophie du droit. Qui, j'imagine, fait pour beaucoup d'entre vous partie des lectures habituelles. Et donc, au paragraphe 175 de la philosophie du droit de Hegel, on peut lire « La nécessité ou le besoin d'être éduqué existe chez les enfants, sous la forme d'un sentiment qui leur est propre, celui de l'insatisfaction d'être tels qu'ils sont. » C'est quand même beau, la philosophie. C'est le penchant qui les incite à appartenir au monde des adultes, qui pressentent comme quelque chose de supérieur au leur, ou encore le désir de devenir grand. La pédagogie fondée sur le jeu estime que l'enfance vaut pour elle-même et la présente comme telle aux enfants. Elle rabaisse ainsi l'élément sérieux, se rabaisse elle-même à une forme puérile peu appréciée des enfants eux-mêmes. En s'appliquant à représenter les enfants comme parvenus à maturité et satisfaits de l'état où ils se trouvent, alors qu'en réalité, ils se sentent eux-mêmes dans un état de non-maturité, cette pédagogie trouve et pervertit le besoin qu'ils ont de quelque chose de meilleur. Elle produit un manque d'intérêt et une cécité à l'égard des réalités substantielles du monde spirituel. D'autre part, elle suscite chez les hommes un sentiment de mépris, puisque ces pédagogues se sont présentés à eux, lorsqu'ils étaient encore enfants, comme étant eux-mêmes puérils. Donc, méprisable. Je vous renvoie au texte d'Alain. Or, on le parcourt quand même, le texte d'Alain que vous avez aussi. Donc, le texte du paragraphe 175, vous l'avez dans le recueil. J'ai oublié de vous le dire, donc on aurait pu le dire ensemble. Et le texte d'Alain, donc c'est la première page des propos sur l'éducation d'Alain. Lecture que je ne peux que conseiller inlassablement.